France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, les damnés de la terre et de la mer. Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021, un canot pneumatique tombe en panne de moteur avant de se dégonfler en pleine mer. Sur les 33 passagers, seuls deux sont retrouvés vivants. Une catastrophe sans précédent, la plus grave survenue à l'époque, depuis que des migrants entreprennent de traverser la Manche à bord d'embarcations de fortune. Un an plus tard, une enquête du Monde révèle les circonstances du drame. Cette nuit-là, les agents du CROSS, pourtant censés porter assistance aux navires en difficulté dans la Manche, prennent la décision de ne pas envoyer de secours, et ce, malgré 18 appels à l'aide. En mai 2023, trois femmes et deux hommes du CROSS sont mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Défaillance individuelle, faillite des politiques migratoires françaises et anglaises, les deux, probablement. Mais ça ne change pas grand-chose sur le fond. Nous vivons une époque où on rejette à la mer des populations désespérées, l'un des plus grands drames du monde actuel. Notre invité Julien Goudichaud, journaliste et auteur du livre « Les plages de l'embarquement », paru en 2023 aux éditions Les Arènes, lui-même a traversé la Manche avec des migrants. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Bettina Lioré, rédacteur en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation François Audouin.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Le 24 novembre 2021, 13h49. Alors qu'il pêche, à quelques kilomètres des côtes françaises, dans la Manche, le patron du Saint-Jacques aperçoit à la surface de l'eau le corps d'un homme, inerte, qui flotte. À toute vitesse, il arrête le moteur et voit, quelques mètres plus loin, un autre corps, celui d'une femme cette fois. Paniqué, il gravit les marches du pont pour prendre de la hauteur et découvre, stupéfait, des dizaines de cadavres disséminés sur plusieurs centaines de mètres à la ronde. Comme il se doit, le pêcheur prévient le CROSS, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage maritime du Pas-de-Calais.
On vient de passer à côté de des migrants. Enfin, des cadavres, ils sont morts.
D'accord, monsieur. Donc les migrants sont dans une embarcation. Delta, Charlie Delta.
Non, ils sont dans l'eau. Ils sont dans l'eau, mais ils sont morts.
Après l'appel du pêcheur, les bénévoles de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer, sont mobilisés pour aller récupérer les corps. Face aux caméras des journalistes du Nouvel Obs, ils reviennent sur cette intervention particulièrement choquante.
Nous avons patrouillé, donc nous avons récupéré 6 corps à la dérive. Nous avons passé à côté d'une embarcation pneumatique carrément dégonflée. Moi j'avais une femme, une dame enceinte et un petit jeune de peut-être de 18 ans, 20 ans.
La situation que l'on a connue aujourd'hui, on l'a redoutée depuis longtemps. Hein. Ça fait longtemps qu'on tire le signal d'alarme.
On en prend l'habitude, mais ça reste choquant. Ça, on a beau faire, ça reste choquant. Surtout au niveau des enfants. Hein.
Ce n'est pas la première fois, en effet, que ces deux bénévoles repêchent dans la Manche les corps inanimés de candidats à l'exil. Mais une fois à l'abri des micros et des caméras, ils s'interrogent. Pourquoi le CROSS n'a pas fait appel à eux la nuit précédente pour secourir cette embarcation? Les victimes n'ont-elles pas tenté d'appeler au secours? À en croire la préfecture, dont dépend le CROSS, les agents n'ont été alertés que lors de l'appel passé par le pêcheur en milieu de journée. Tous les SOS que nous recevons sont pris en compte et traités, quel que soit le secteur maritime. Les gens sont secourus, affirme CROSS. Bien. Mais comment expliquer que cette embarcation de 33 passagers ait pu sombrer sans que personne n'ait été alerté et envoyé sur place? C'est pour répondre précisément à cette lourde question qu'au lendemain de la tragédie, les gendarmes de la section de recherche de Cherbourg, spécialisés dans les procédures criminelles, débarquent dans la salle de contrôle du CROSS. Et il commence par saisir les enregistrements des échanges téléphoniques passés entre ses agents et leurs divers interlocuteurs. Très vite, les enquêteurs découvrent que les passagers d'embarcation qui a fait naufrage ont bien appelé le CROSS, et ce à de nombreuses reprises. Alors, pour évaluer l'éventuelle responsabilité des agents dans ce drame, les gendarmes commencent les auditions et remontent le déroulement de la soirée. Au fil des interrogatoires, ils plongent alors dans l'univers bien singulier du Cross Greeney, du nom de sa cape français le plus proche de l'Angleterre. Novembre 2021, 23h50. La nuit est tombée depuis un bon moment sur la côte d'Opale, balayée par les vents. Quelque part, entre Boulogne-sur-Mer et Calais, perché tout en haut d'une falaise, un bâtiment à moitié enseveli sous terre, aux allures bunker, renvoie la lumière. Dans la salle de repos, qui fait office de cuisine, Frédéric, Fanny, Clément, Pauline et Priscilla profitent des quelques minutes qu'il leur reste avant de prendre leur quart. C'est ici, au Cross, dans ce monde à part, qu'ils travaillent et cohabitent une semaine sur deux, un peu comme des matelots en pleine mer, la houle en moins. Ici, les opératrices, les officiers de permanence et les chefs de car, gradés ou pas, mangent et dorment sur place. Toutes les 4 heures, de jour comme de nuit, ils se relaient pour surveiller la navigation maritime et coordonner les opérations de sauvetage.
Mets des relais. Ici le Cross Greeney. Information numéro 1. Médé, secteur Calais. Une petite barque à moteur est en difficulté, secteur Calais. 3 personnes à bord. Il est demandé à tous les navires sur zone d'exercer une veille attentive, de se diriger vers les lieux du sinistre et de prendre contact avec le Cross Greeney coordonnant l'opération sur VHF. Ici le Cross Greeney, terminé.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le rythme est soutenu. Car le delta de la Manche est l'un des axes maritimes les plus fréquentés, donc les plus dangereux qui soient. Chaque jour, des centaines de navires de toute taille traversent ce couloir d'à peine 30 km de large. Sur cette autoroute maritime étroite qui relie l'Europe du Nord au reste du monde, les plus petits navires de pêche croisent les pétroliers plus imposants. Et à cause des bancs de sable, des tempêtes et des courants, les risques sont multiples. Collisions, naufrages, marées noires. Mais pour porter secours aux bateaux en difficulté, les moyens du Cross sont limités. Alors, les agents s'appuient sur les bénévoles de la SNSM et sur les autres marins, dont ils coordonnent les interventions, comme le racontent ces deux employés.
Les premiers moyens qu'on engage sur une opération, c'est des moyens qui sont déjà à la mer. C'est des marins qui sont en mer. On leur demande de porter secours et jamais aucun marin ne refuse de se mettre à disposition du Cross pour aller secourir à d'autres marins.
Même dans les cas où on pourrait estimer que ce marin s'est mis dans une situation de détresse, en commettant des erreurs d'appréciation évidentes ou avec parfois un amateurisme, mais il n'y a jamais de tergiversation de la part d'un marin pour aller porter assistance à un de ses pairs.
Il n'est pas rare au Cross d'entendre un agent raconter sa première opération de sauvetage. Le premier appel d'urgence qu'on doit traiter seul. Le premier échange avec un équipage en difficulté. Puis c'est la course contre la montre qui s'enclenche. Il faut localiser l'embarcation et surtout, ne pas la perdre de vue sur les écrans. Enregistrer les données géographiques et les transférer aux équipes de secours. Une sorte de baptême du feu au cours duquel chacun et chacune tente de garder son sang-froid et surtout sans rien laisser paraître. Mais c'est aussi pour beaucoup un moment fondateur où pour la première fois de leur vie, les agents se sentent vraiment utiles. Certaines personnes secourues leur envoient même, parfois, des lettres de remerciement dans lesquelles on les appelle les gardiens d'Opale. Alors, quand il faut rédiger des rapports ou effectuer des tâches administratives rébarbatives, chacun prend sur soi, porté par l'association que ce qu'on fait ici, ça a du sens. Et puis, travailler au Cross, ça n'est pas rien. L'uniforme, le statut de fonctionnaire, de sauveteur, ça déclenche une certaine admiration chez les gens. Bien. Mais depuis quelques mois, le moral des troupes est en berne, car les agents doivent faire face à un nouveau phénomène. La multiplication dans le delta du nombre de small boats, ces embarcations pneumatiques fragiles, surchargées de migrants qui souhaitent rejoindre l'Angleterre. 2 ans plus tôt, en 2019, 1900 personnes avaient tenté la traversée. L'année suivante, 8400, dont des femmes et des enfants, autant d'êtres humains susceptibles de se retrouver en danger de mort, et d'appeler les agents du Cross à la rescousse.
Ils sont parfois dans des zodiacs qui font 5-6 mètres, ils se mettent à 19, 20, et avec du matériel qui n'est pas forcément aux normes, avec un moteur qui n'est pas assez puissant. Quand on voit les bateaux de 300 mètres qui foncent à 40 km/h, et à côté, le tout petit zodiac, c'est moi ce qui me fait le plus peur, c'est que un jour, on est vraiment une grosse catastrophe, qu'un des gros navires percute un tout petit zodiaque et qu'on se retrouve avec des jeunes gens, des gens plus anciens, des enfants à sauver à la mer. On pourrait se retrouver vraiment avec une catastrophe humaine d'une ampleur des plus horribles.
Cette nouvelle donne génère plus de responsabilités, évidemment, et provoque plus de stress aux agents du CROSS. D'autant que les moyens techniques et logistiques restent les mêmes, deux bateaux et un hélicoptère. Pour certains membres de l'équipe, ces traversées relèvent de la folie. Comment peut-on risquer sa vie et celle de ses enfants pour rejoindre un pays qui, d'ailleurs, n'a aucune envie d'accueillir les étrangers? Et pourquoi ce serait à eux, le CROSS, de gérer les conséquences de ces prises de risques inconscientes? Eh bien parce que depuis le début des années 2000, le Royaume-Uni a laissé à la France le soin de gérer, de contrôler et de sécuriser sa frontière, comme le résume cet article publié sur le site de l'association Terre d'Asile.
En 2003, le Royaume-Uni et la France signent le traité du Touquet, qui vient compléter le protocole de Sangatte de 2000, établissant les contrôles de la frontière britannique sur les côtes françaises. Dans les 20 dernières années, les accords successifs concernant la gestion des frontières répondent donc à une logique d'externalisation qui fait de la France, soutenue par des financements importants du Royaume-Uni, la gardienne de la frontière britannique.
Entre 2015 et 2018, le Royaume-Uni verse ainsi l'équivalent de 190 millions d'euros à la France pour qu'elle sécurise la frontière à Calais et sur le reste de la côte nord. À cette époque, les migrants qui souhaitent passer illégalement en Angleterre le font en montant dans des trains ou en se cachant dans des camions qui font la traversée sur le ferry. Mais l'entreprise est de plus en plus risquée et les contrôles se multiplient. D'abord à cause de l'intensification des fouilles de véhicules, mais aussi parce que, à bord des camions et des trains, les autorités françaises installent des équipements technologiques de pointe. Rayon X, détecteur de dioxyde de carbone, sans parler de la militarisation des infrastructures portuaires et ferroviaires sur le littoral. Tout est fait pour empêcher les migrants de rejoindre le Royaume-Uni. C'est ainsi qu'en 2016, et comme le raconte Julien Goudichaud dans son livre « Les plages de l'embarquement », une idée germe dans l'esprit d'un activiste du coin.
Laurent accueille chez lui Davod et Mokhtar. C'est à ce moment-là que germe un projet. Le projet. Laurent se remémore les parties de pêche dans les eaux anglaises en compagnie d'un copain qui possède un petit bateau. En quelques clics sur le bon coin, il tombe sur une embarcation équipée d'un moteur de 50 chevaux. Le tout vendu 1000 euros par un plaisancier qui habite à deux pas de chez lui. Une folie ? Davod, Mokhtar et Mohamed acceptent sans la moindre hésitation de tenter la traversée. Le 11 juin 2016, en fin d'après-midi, les trois hommes en difficulté sur leur coque de noix sont secourus par les gardes-côtes de Sa Majesté. Passage réussi. Une nouvelle solution migratoire est née.
Progressivement, la nouvelle se répand sur les côtes françaises. Deux ans plus tard, c'est par la mer et à bord d'embarcations pneumatiques de fortune que la majorité des migrants tentent désormais, et au péril de leur vie, de rallier l'Angleterre. Dans la salle de repos du CROSS, l'horloge du micro-ondes affiche 23h58. Alors, les uns débarrassent leurs assiettes, les autres avalent un café, et tous se mettent en route vers la salle de contrôle. Derrière la grande baie vitrée qui de jour offre une vue imprenable sur la mer, c'est le noir total. Préparez-vous pour une grosse nuit de migrants, lance un collègue relevé. Effectivement, les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Blasés, les opérateurs s'installent et prennent leur premier appel. Les agents écoutent, répondent machinalement. Mais ils ont en réalité de moins en moins de compassion pour ces voix au bout du fil, ces voix désespérées et suppliantes qui, nuit après nuit, disent toute la même chose. Au secours.
Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as they go across the borderlines. I can feel the fear hang heavy on the water, glinting sharply with the pale moonlight. Mothers, hold on tightly to your children. The waves are breaking violently tonight. Seabirds birds fly the salty wind east to south, north to west. Can we go as they go across the borderline? I hear yelling, I hear crying, I hear praying as the ocean threatens us on all four sides. The water rises deeper every minute. This vessel cannot bear the burden of our load. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. Can we go as they go across the borderline? One by one, the children have grown silent. From their mother's arms, they float away. The roaring sea will wash our quiet bodies upon the foreign shore, but our souls will find a way. And with seabirds fly the salty winds east to south, north to west. See us go as they go across the borderline. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as they go across the borderline. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as they go across the borderline. Seabirds fly the salty wind.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le drame des migrants en mer.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
23 novembre 2021, 22h30. La plage de Lonne, près de Dunkerque, est plongée dans l'obscurité. Seule la faible lueur du clair de lune permet d'apercevoir, au loin, les silhouettes d'une trentaine de personnes qui courent vers le rivage et grimpent dans un zodiaque. À bord, Dana, Sheka et Ahmad, ils se serrent les uns contre les autres. Ils ont fui l'Afghanistan, l'Érythrée ou la Somalie pour rejoindre un cousin, un oncle ou une tante qui les attend en Angleterre. Les quelques gilets de sauvetage disponibles sont distribués aux plus vulnérables, à cette femme enceinte notamment, installée à l'avant, ou à cette petite fille recroquevillée au milieu du bateau. Si la plupart des passagers ne savent pas nager, Twana, un jeune Kurde assis à l'arrière, lui n'a jamais vu la mer. Il est passé par la Turquie et n'a pas eu à traverser la Méditerranée. Son plan initial, c'était de monter à bord d'un camion avec un sac plastique sur la tête pour ne pas déclencher les détecteurs de CO2. C'est son frère qui lui avait donné ses conseils. Oui, c'est comme ça qu'il avait réussi à passer, lui. Mais en quelques années, les choses ont beaucoup changé sur la côte. Et à son arrivée à Calais, quelques mois plus tôt, Twana découvre les 70 km de clôture installées aux abords du tunnel, du port et de sa rocade. La zone est devenue quasiment infranchissable. Reste alors la traversée en bateau. Dans le vrombissement du moteur, chahuté par les vagues, Twana tente de chasser de son esprit ces images de bateaux dégonflés, ces corps aspirés au fond de la mer. Cette mer qui engloutit tant de candidats à l'exil avant lui. 3 heures plus tard, à mi-chemin des côtes anglaises, la situation se complique pour les passagers du canot. Comme l'imagine Vincent Delacroix dans son roman « Naufrage », paru chez Gallimard.
Le moteur a calé une première fois, et le canot s'est presque aussitôt immobilisé. Sans élan et sans énergie, lourd, englué, et le silence est brutalement retombé. La faible houle battait les flancs. Ce n'était pas un problème de carburant. À 2 ou 3, ils ont tâché de le relancer. Une fois, deux fois. Il est reparti dans un nuage nauséabond d'échappement. Mais de nouveau, le canot peinait à s'arracher. Le moteur forcé. Ils ont encore parcouru quelques encablures. Et puis le moteur a de nouveau calé. Et cette fois, il n'est pas reparti. Des exclamations ont commencé à s'élever. Et c'est là qu'un jeune homme, à qui il restait un peu de batterie, propose d'appeler les secours.
Pour éviter d'être ramenés en France, les migrants appellent les secours anglais. Mais parce qu'ils sont localisés dans les eaux territoriales françaises, on leur dit d'appeler le Cross Green, à tel numéro. À une centaine de kilomètres de là, dans la salle de contrôle du Cross, les opératrices sont débordées par les coups de téléphone. Déjà une vingtaine d'appels au secours en 2 heures à peine. À 1h51, un passager du canot de Toana parvient à contacter le Cross.
On a besoin d'aide. Aidez-nous, s'il vous plaît.
Je n'ai pas votre position. Si je n'ai pas votre position, je ne peux pas vous aider. Est-ce que quelqu'un a WhatsApp dans votre bateau pour qu'on ait votre position et qu'on puisse vous aider?
Oui.
Envoyez un message sur WhatsApp, et quand j'ai ce message, je vous envoie un système pour avoir votre position.
Ma position?
Oui, votre position. Vous voyez le système sur cette photo et vous m'envoyez la position. Votre bateau est le numéro 7. Lorsque vous et vos amis m'appelez sur le 16 ou le 112, vous dites que vous êtes le numéro 7.
Ok, ok, je vous envoie ma position.
La première difficulté en effet pour les agents du Cross consiste à localiser les embarcations. Alors, pour leur permettre de signaler leur position, les agents leur envoient un tuto par WhatsApp. 15 minutes plus tard, l'opératrice reçoit la localisation. Le canot est bien dans les eaux françaises. Elle est donc censée organiser les secours. Mais parce que l'embarcation n'est qu'à 1 kilomètre des eaux anglaises, elle décide que ça ne vaut pas le coup de lancer une opération de sauvetage. Le temps que le Cross intervienne, pense-t-elle, l'embarcation sera dans les eaux anglaises. Donc, elle décide de jouer la montre et de laisser dériver le bateau. Elle prévient le centre de Douvres, en Angleterre, qu'une embarcation arrivera bientôt sur sa zone, tout en rassurant les passagers à qui l'on dit « Gardez votre calme, les secours arrivent ». En réalité, le canot pneumatique, qui commence à se dégonfler, est toujours dans les eaux françaises et aucun navire n'a été dépêché sur place. À 2h28, soit 37 minutes après le premier appel du Zodiac, le Cross rappelle les Anglais pour leur signaler que l'embarcation est désormais dans leur zone. À bord du canot qui dévie vers l'inconnu, plus personne ne parvient à garder son calme. Le canot se ramollit sous le poids des passagers et les vagues menacent d'engloutir tout le monde, la terreur. À 2h45, un passager appelle à nouveau le Cross. Les cris et les pleurs décrits par les gendarmes dans la retranscription des échanges ne semblent pas émouvoir l'opératrice.
Allô? Aidez-moi! Vous pouvez m'aider?
Oui, mais je n'ai pas votre position. Je ne peux pas vous aider.
Mais je voulais donner. Vous m'avez dit que nous étions dans les eaux anglaises.
Alors vous appelez le 999.
J'ai appelé.
Mais quoi? Vous pouvez attendre? Je vous passe les Anglais, ok? Allez, chut. Votre migrant, machin, là.
Leur casque vissé sur les oreilles, les gendarmes de la section de recherche de Cherbourg ne peuvent contenir leur étonnement à l'écoute de cette phrase prononcée. Certes en apparaté à un collègue, mais prononcé tout de même. Alors, avec la plus grande attention, ils poursuivent les écoutes et découvrent qu'au même moment, un patrouilleur de la marine française, le Flamand, navigue dans le secteur. Une aubaine pour l'embarcation de migrants toujours livrée à elle-même. Pourtant, les agents du Cross décident de ne pas solliciter son aide. Pour quelle raison, demandent les enquêteurs pendant les auditions. Il sera arrivé trop tard sur la zone et on ne pouvait pas se permettre d'enlever les moyens nautiques de nos côtes, leur répondent les agents du Cross. À 3h30, alors que les naufragés tentent de se répartir au mieux sur les boudins qui se dégonflent, un passager tente à nouveau d'appeler à l'aide.
Au secours! S'il vous plaît! Dans l'eau! Je suis dans l'eau!
Mais vous êtes dans les eaux anglaises, monsieur!
Non, pas dans les eaux anglaises! Dans les eaux françaises! Pourriez-vous venir vite, s'il vous plaît?
Non, vous êtes dans les eaux anglaises. Attendez, je vous confie au garde-côte anglais.
Au moment où l'opératrice tente de transférer l'appel à Douvres, la communication coupe et l'on entend alors prononcer cette phrase. Ah bah t'entends pas? Tu seras pas sauvé. J'ai les pieds dans l'eau? Bah, je t'ai pas demandé de partir. Dans une eau à 10 degrés, les passagers se cramponnent à la carcasse flottante qui ne peut plus abriter personne. Le froid engourdit les jambes et les bras. Au téléphone, les agents du CROSS veulent rassurants. Les secours seront là dans quelques minutes. Pendant ce temps, le centre de Douvres en Angleterre lance 4 messages d'alerte à destination de tous les bateaux sur zone en mesure d'apporter une assistance à l'embarcation. Le flamand n'est pas loin. Alors, sur le canal 16 de la radio VHF, les Anglais tentent de joindre l'équipage. Mayday, mayday. Pas de réponse. À 4h16, l'un des naufragés à qui il reste un peu de batterie sur le téléphone parvient à passer un dernier appel au CROSS. Alors qu'autour de lui, ses compagnons d'infortune disparaissent sous les flots, on lui pose les mêmes questions, inlassablement. Ces questions auxquelles ils ont déjà répondu des dizaines de fois. C'est quoi le problème sur votre bateau? Vous êtes parti d'où? En aparté, l'opératrice dit alors à son coéquipier « Je vais lui sortir la phrase magique. Pas de position, pas de bateau de secours. » Pourtant, l'homme au bout du fil implore « Nous sommes en train de mourir. » Et tout à coup, il dit voir passer un grand bateau. « Quelle est la couleur du bateau ?» demande l'opératrice. Mais la conversation coupe soudainement. Ce navire, c'est le Concerto, et c'est le dernier espoir de ceux qui ont encore la tête hors de l'eau. Le chef de bord, qui les aperçoit, appelle le CROSS pour les informer qu'il voit une petite embarcation, là, sans lumière, à l'arrêt. Il demande alors ce qu'il doit faire. Doit-il leur porter secours? Non. L'opérateur du CROSS lui dit de continuer sa route. Sur son écran, l'agent est repéré un navire anglais, le Valiant, qui semble se diriger vers un canot. Dans le journal de bord, il note... Conversation coupée suite à l'arrivée du Valiant, pas de certitude. Peu après 5 heures du matin, et sans avoir vérifié que les 33 passagers du Zodiac avaient bel et bien été secourus par ce navire, les agents du CROSS prennent la décision de clore l'événement sous la mention « secouru ».
Voir autant de morts comme ça à côté de nous, des gens. Des enfants morts. Il en avait un, ouais, sans gilet, habillé tout en noir. Et je me souviens de sa chemise, une chemise à carreaux. Après, je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est vraiment un film d'horreur.
Le lendemain du drame, peu après le coup de fil du pêcheur, vers 14h, les agents du CROSS ayant travaillé la nuit précédente sont tous rappelés à leur poste. Comme le raconte l'un d'entre eux, la journaliste Laetitia Gérel.
Dans la salle vitrée qui donne sur le détroit de la Manche, il y a eu le décompte des morts, glaçant. Le nombre de corps d'hommes, de corps de femmes, de corps d'enfants. Parmi les victimes, il y avait une petite fille de 7 ans qui avait appelé le CROSS. On avait les yeux humides. J'ai vécu ça comme un échec. Je me suis dit qu'on n'avait pas su gérer et je n'ai pas réussi à dormir pendant de nombreuses nuits.
Bilan, 27 morts, dont 6 femmes et une fillette. 4 personnes portées disparues, parmi lesquelles le jeune Twana, dont le corps n'a jamais été retrouvé. 2 survivants seulement, sur 33 passagers. Un drame, celui que redoutaient certains agents et que d'autres ont laissé se dérouler. Mais pour la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, dont dépend le CROSS, il n'est donc pas question d'ébruiter l'affaire. Dans un communiqué, la préfecture assure que, je la cite, « Le CROSS n'a eu connaissance de la situation que lors de l'appel passé par un pêcheur en milieu de journée. Tous les appels reçus par le CROSS sont pris en compte et traités. Quel que soit le secteur maritime, les gens sont secourus. » Oui. Sauf que le 13 novembre 2022, le journal Le Monde publie une enquête qui met à mal la version de la préfecture. Les journalistes ont réussi à mettre la main sur les transcriptions des échanges téléphoniques qu'ont consultés les gendarmes. Les lecteurs découvrent le bilan glaçant et les circonstances dramatiques du naufrage. Mais ce sont surtout les propos tenus par les opératrices qui provoquent l'effroi. Elles deviennent alors le centre de l'attention médiatique, perçues comme distantes, dénuées d'empathie, voire méprisantes à l'égard de ceux qu'elles sont censées secourir. Pour comprendre, au lieu de blâmer, ou pour apporter au moins un peu nuance au terrible portrait qui est fait de cette opératrice, Laetitia Gérel rencontre les agents présents ce soir-là, qui, sous couvert d'anonymat, acceptent de lui parler.
Je reconnais que ces propos sont injustifiables. Mais il faut aussi parler du contexte. Quand le téléphone est saturé d'appels, qu'il y a toutes ces vies en jeu, comme cette nuit-là et pendant bien d'autres, ça peut être une façon de lutter contre la pression. Un peu comme le chirurgien qui sort d'une opération de 6 heures et qui fait des blagues lourdes pour évacuer son stress. Ce n'est pas pour autant qu'on est cynique ou raciste. Notre mission, c'est de sauver des vies, des gens, que ce soit des migrants ou pas.
Et si l'un des agents du CROSS reconnaît avoir sous-estimé la situation de détresse dans laquelle se trouvaient les passagers, il décrit aussi la saturation du dispositif d'appel d'urgence et le manque de moyens.
Il y a de plus en plus d'embarcations qui tentent la traversée, avec de plus en plus de monde à bord. C'est devenu ingérable. En moyenne, on compte 30 personnes par embarcation. Si vous faites le calcul, sachant qu'il peut y avoir 40 passages par jour et que plusieurs personnes d'une même embarcation appellent plusieurs fois les secours, vous voyez que le dispositif est saturé. C'est pareil pour les moyens de sauvetage. Si on a ne serait-ce que 30 embarcations en détresse, avec à bord une trentaine de personnes, ça fait 900 personnes à secourir. Nous n'avons pas assez de moyens.
Les 25 mai et le 1er juin 2023, 5 militaires du CROSS Green et 2 membres d'équipage du patrouilleur français le Flamant sont mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Tous contestent leur responsabilité. Les opératrices, elles, savent que les remarques faites à leurs collègues en aparté joueront contre elles lors du procès. Parce que les coupables toutes désignées dans cette affaire, ce sont elles, des femmes cruelles, des monstres, des boucs émissaires idéales en somme, pour donner un semblant de sens à ce drame. Dans son roman Naufrage, Vincent Delacroix imagine le monologue intérieur de l'une d'entre elles à la sortie de son interrogatoire.
La capitaine de gendarmerie ne semblait même pas savoir ce que j'aurais dû faire. Pourquoi pas plonger moi-même à la mer pour leur porter secours si ça se trouve, ou leur chanter pourquoi pas « Plus près de toi mon Dieu » à la radio ? Leur expliquer comment gonfler les boudins de leur canot ou seulement, clairement, me représenter leur visage. Imaginer leur vie, me les figurer un à un. Les 29, leur pays d'origine, leur raison. La trajectoire de l'un, le visage de l'autre. La maison ou le champ ou les parents d'un troisième. L'anorak de la petite fille, les chaussures de sa mère. Et pleurer, pleurer sur leur misère et leurs rêves engloutis. Pleurer avec eux et sur eux, ce qui, à coup sûr, ne les aurait pas sauvés. Mais en tout cas, apparemment, d'après cette gendarme, m'aurait sauvé moi, aurait sauvé mon âme.
À qui la faute alors, si ces personnes se sont noyées ? Aux agents du CROSS, qui n'ont pas envoyé le bateau pour les secourir ? Ou à leurs supérieurs qui ont rejeté les nombreuses demandes de moyens supplémentaires? Est-ce la faute du gouvernement britannique qui finance la militarisation des côtes françaises? Ou à l'État français qui applique aveuglément les mesures mortifères que lui dicte son voisin britannique? Pour les autorités, des deux côtés de la Manche, les seuls responsables de ce drame sont les passeurs qui s'enrichissent sur le désespoir des migrants. En réalité, si les migrants se tournent vers eux, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Persécutés par la police, ils ne peuvent ni rester ni partir. Traités comme des criminels alors qu'ils fuient pour beaucoup des persécutions, ils se tournent vers les seules personnes qui acceptent de les amener jusqu'en Angleterre. Là où on leur donnera enfin une chambre où dormir et des papiers pour travailler. Là où ils pourront peut-être obtenir l'asile et faire venir leur famille. Là où ils pourront vivre librement et dans la dignité. On ne cesse d'évoquer la question migratoire. La vraie question ne serait-elle pas celle de l'accueil ?
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le drame des migrants. Notre invité, Julien Goudichaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et auteur et réalisateur. Pendant 7 ans, vous avez arpenté le littoral du Nord-Pas-de-Calais pour comprendre le phénomène des traversées de la Manche par des migrants. Et surtout, vous avez fait vous-même la traversée. Vous avez rencontré des candidats à l'exil, mais aussi des passeurs. Et avec Nicolas Torrent, vous en avez tiré un livre intitulé « Les plages de l'embarquement » paru aux éditions Les Arènes. Alors ce livre, a été nommé pour le prix Albert Londres en 2023. Et puis vous avez réalisé également un documentaire sur le sujet qui était diffusé sur France 2 dans Envoyé spécial. Vous avez fait la traversée et c'est ce qu'on voudrait entendre d'abord de votre part. Bah, tout simplement, racontez-nous.
La traversée, c'est quelque chose qui nous hante jusqu'au jour où ça arrive. En fait, c'est quelque chose dont on rêve des nuits, les nuits précédentes, pendant des semaines, pendant des mois. L'attente, elle est terrible. Finalement, le jour où ça arrive, c'est presque une délivrance. Mmh. Et quand on se retrouve embarqué avec une cinquantaine de personnes dans un bateau, on fait équipe avec ces personnes. En fait, on est une espèce de grande colonie où on se serre les coudes tous et on a juste un objectif, c'est arriver de l'autre côté. Alors, il faut faire face aux difficultés. Quand l'eau rentre dans le bateau, il faut calmer ceux qui sont les plus, qui ont le plus peur, qui veulent faire demi-tour, ceux qui veulent appeler les secours. Il faut que l'on surveille nos téléphones portables. Il faut que l'on vérifie à ce qu'il n'y ait pas de personnes qui fument à bord pour pas que le bateau s'enflamme parce qu'il y a de l'essence qui se répand dans l'embarcation. Il faut que l'on veille aux plus faibles, aux enfants, aux femmes qui ne paniquent pas. Il faut qu'on surveille aussi ceux qui pourraient s'endormir sur les boudins parce qu'il y a des personnes qui s'endorment et qui navire pendant la traversée qui tombe à la mer et qu'on n'ira pas récupérer parce que faire un demi-tour avec une embarcation de cette taille-là, c'est quasiment du suicide. Et puis, il faut ensuite veiller à appeler les secours une fois qu'on arrive vers les eaux anglaises.
Et qu'est-ce qui vous a motivé pour vous pencher sur ce sujet ?
Je crois que quand je suis arrivé et que j'ai découvert Calais, c'était en 2015, je débutais dans le journalisme. Et j'ai été fasciné par ce que j'ai vu là-bas. Mmh. J'étais fasciné, j'y connaissais absolument rien presque en migration, et j'ai découvert des jeunes d'à peu près mon âge qui me disaient tous avoir un rêve. Et puis ils venaient tous des quatre coins du monde, des conflits, des guerres et des dictatures. Et puis finalement, j'arrivais de temps en temps à m'identifier à eux. Ils me racontaient leur vie et puis la nuit, on partait ensemble pour tenter d'escalader un grillage de 4 mètres de haut pour attraper un train à la volée et pouvoir s'engouffrer dans un tunnel qui déboucherait sur l'Angleterre.
Et qu'est-ce qu'ils vous disaient de leur vie ? Alors bien sûr, c'est très divers, hein. Ils viennent de plusieurs pays, mais est-ce que vous avez vu une motivation essentielle, générale, chez tous ces gens ? Qu'est-ce qu'ils fuient ? Ils fuient une dictature ? Ils fuient le danger ?
Oui, ces gens fuient la guerre, les dictatures, le danger. Il y a évidemment parmi eux aussi certaines personnes qui ont des motifs économiques, qui sont partis parce qu'il n'y avait rien à faire chez eux, il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien, donc il fallait tenter leur chance. Il y a aussi des gens qui ont demandé l'asile dans des pays comme la France. Moi aujourd'hui je suis encore très surpris, ça m'arrive d'aller à Calais, de discuter avec des Soudanais qui parlent parfaitement français et qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Il me dit, je suis resté ici, j'ai demandé l'asile, j'ai essayé de travailler, j'ai appris votre langue. Ça fait 3 ans, on m'a dit non, on m'a dit pars. Donc maintenant, on m'a dit l'Angleterre, donc je viens ici, je vais monter dans un bateau, je sais même pas pourquoi.
Alors qu'est-ce que vous inspire le récit qu'on vient d'entendre sur cette nuit du 23 au 24 novembre 2021, une nuit absolument dramatique ?
C'est glaçant, hein, c'est désespérant, évidemment. Pouvoir parler comme ça. Alors, on en a évoqué la question de l'humour et du cynisme pour dédramatiser le travail de cette personne. Mais bon, il y a des contextes. Pouvoir dire des choses pareilles au téléphone avec une personne qui
vous
demande de l'aide.
Parler d'opératrice du Cross, hein, c'est
oui,
ça.
Oui, exactement. Pouvoir avoir des réponses pareilles, c'est terrifiant. Hein. Je me remémore le moment où on appelait justement les secours dans le bateau et que la conversation était constamment rompue, constamment on réessayait d'appeler, la conversation était coupée et puis au bout d'un moment, en fait, il y a un sentiment d'abandon. Ouais. Et dans l'embarcation, la peur a commencé à gagner plusieurs passagers qui ont dit c'est fini, ils vont pas venir nous chercher. Mmh. Ils viendront pas nous chercher, on est un problème pour eux, ils vont nous laisser mourir.
Et quel était le ton des gens du Cross ? Est-ce que vous avez entendu un ton énervé, un ton d'urgence, un ton d'empathie, qu'est-ce qu'on ressent ?
Alors, c'était du côté anglais, hein. Nous, on était dans les eaux anglaises, donc on a eu affaire aux Anglais. Bon, c'était un ton finalement assez sec, hein, de secouristes qui voulaient avoir des informations claires, nettes et précises de où nous nous trouvions avec la marche à suivre. Malheureusement, dans l'embarcation, on était 5, il y avait 5 personnes qui appelaient en même temps, et puis il y a des personnes qui parlaient pas du tout anglais et qui hurlaient dans le téléphone au secours, venez nous aider. Donc je comprends la difficulté. Après, maintenant, il faut que ces gens soient formés, il faut qu'il y ait plus de personnes, il faut peut-être qu'il y ait des interprètes, et puis...
Parce qu'on l'a dit aussi, il y a un manque de moyens, il y a des circonstances atténuantes quand même pour les gens du Cross, ou pareil pour les Anglais.
Il y a des circonstances atténuantes, mais pas qui permettent de justifier de tels propos qui ont été entendus avant, c'est pas possible.
Bien sûr.
France Inter. L'affaire sensible.
Julien Goudichaud, on a parlé des opératrices du Cross, il n'y en a pas qu'une, hein, il y en a plusieurs. Il y a trois acteurs finalement, il y a plusieurs acteurs dans ce drame. Il y a les migrants eux-mêmes, il y a les secours et puis il y a les passeurs. Alors en 2024, 78 personnes ont trouvé la mort en tentant la traversée, un chiffre donné par l'Organisation internationale pour les migrations, c'est une agence des Nations Unies. Et la réponse des autorités consiste à dénoncer systématiquement le business des passeurs sur lequel vous avez enquêté. Qui sont ces gens? Alors, je précise qu'en Libye, par exemple, certains migrants ont disparu, ont probablement été tués par des passeurs, hein, qui prennent leur argent, et après, ces pauvres gens disparaissent. J'imagine, j'espère que ce n'est pas la même situation en France. Qui sont ces passeurs?
Alors, leur profil, il est assez divers, hein, vous trouvez de tout. Vous avez évidemment la pire ordure possible et imaginable, et puis il y a des gens dont le profil... La zone est un petit peu plus grise. J'en ai rencontré certains. Voilà, moi, la première fois qu'un passeur m'a autorisé à monter dans un bateau, c'était en 2020. Il a dit que je voyagerais gratuit et il tenait absolument à ce que je raconte l'histoire de tous ses passagers. Il était kurde iranien. Il avait suivi la même route migratoire qu'il avait empruntée quelques années auparavant. Il avait rencontré beaucoup de difficultés. Il était arrivé jusqu'en Angleterre et il s'en était sorti comme ça. Il s'était épris d'une certaine mission de faire passer tous ces gens. Bon, évidemment, il s'enrichissait au passage et il en jouissait beaucoup, mais ça lui tenait à cœur de raconter l'histoire de ses passagers. Il avait pourtant tout à y perdre, hein, de se faire arrêter, de que je sois un policier infiltré ou quoi que ce soit, mais ça lui tenait à cœur. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a aussi des Irakiens. La plupart sont des Kurdes irakiens. C'est un business qui est tenu par les Kurdes irakiens. Vous en avez certains qui sont en Allemagne, en Angleterre, ou alors qui contrôlent leur business depuis leur pays d'origine pour éviter d'être arrêtés. Vous en avez même qui contrôlent le business depuis une prison, depuis la maison d'arrêt. Ils continuent au téléphone
mafia,
à organiser ces passages.
C'est
une mafia et ça s'est structuré maintenant. Ça s'est développé depuis des années. Au départ, les passeurs, si vous voulez, pour la police, il fallait juste identifier une personne qui achetait un bateau sur le bon coin, qui l'acheminait avec sa voiture et qui remplissait les 10 passagers. Maintenant, ce sont différentes strates. Vous avez des personnes qui sont spécialisées à toutes les échelles. Ceux qui vont préparer le bateau, ceux qui vont livrer le bateau sur la côte, ceux qui gardent les bateaux en Allemagne dans des garages, et ceux qui sont des managers et ceux qui contrôlent le business et qui ouvrent juste le porte-monnaie depuis un pays tiers.
Ah, vous disiez que c'était essentiellement des Kurdes irakiens, mais il y a des Anglais et des Français qui ont ce profil-là et qui passent?
Non. Aujourd'hui, il n'y en a pas. S'ils opèrent, c'est vraiment à des échelles minimes du trafic, c'est-à-dire qu'il peut arriver d'avoir des Français qui livrent par exemple un bateau. Des Français, des jeunes qui sont recrutés dans des quartiers à qui on dit « Bon, allez, pour 2 heures de route, tu gagnes 1500 euros. » Bon, il y en a certains qui cèdent à l'offre. Mais la plupart des gens qui livrent les bateaux, par exemple, et qui sont des échelles minimes, ce sont juste des demandeurs d'asile qui sont en Allemagne, qui attendent leurs papiers depuis des années, qui ne travaillent pas et à qui on promet 3000 euros pour 5 heures de route. Et donc, effectivement, ils craquent. Quand ces gens sont arrêtés, on lit dans les journaux « arrestation d'un passeur
». Et c'est le tarif 3000 euros?
3000 euros pour embarquer sur un bateau.
C'est quoi le tarif en animal à s'imaginer? On ne sait pas, évidemment.
Alors, les passeurs établissent des prix en fonction de la nationalité des gens, en fonction du pouvoir d'achat géographique. C'est-à-dire qu'un Africain ne pourra pas payer autant qu'un Iranien ou un Vietnamien, et encore moins qu'un Albanais. Donc, on a des tarifs qui partent de 1000 euros pour une personne qui vient du Soudan. On arrive vers les 2-3 000 euros pour un Iranien, et puis les Vietnamiens et les Albanais sont de l'or en barre et à qui on facture 4 ou 5 000 euros la traversée.
Alors nous parlions de la Manche avec vous, de ces traversées qui se multiplient depuis 2020, mais ces drames de l'exil, du trafic d'êtres humains en fait, hein, ont commencé au milieu des années 2010 en Méditerranée. Et depuis 2016, une association se bat au quotidien, vraiment tous les jours, pour secourir les migrants, essentiellement au large de la Libye, c'est SOS Méditerranée. Je vous propose d'en écouter le président, François Thomas, qui faisait le point en novembre dernier sur le nombre de personnes sauvées.
Depuis le début des opérations, premier sauvetage en mars 2016, l'association a secouru 41 172 personnes. 41 172, le chiffre est précis parce qu'une vie n'a pas de prix. Nous secourons des naufragés, des personnes. Donc, il ne faut pas mélanger tous les sujets sur les politiques migratoires, etc. Nous secourons des naufragés. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a plus de 30 000 personnes qui ont perdu la vie en Méditerranée depuis 2014, ce sont des chiffres des Nations Unies, et on sait que ces chiffres sont sous-évalués, parce qu'ils ne tiennent pas compte des personnes qui disparaissent sans témoin. Donc, il y a l'espoir, c'est cette solidarité quand même, c'est ces soutiens que nous recevons. Formidable. Moi, je suis épaté par toutes les personnes qui m'entourent.
Julien Goudichaud, qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'est rassurant de voir qu'il y a encore des personnes qui s'émeuvent de la situation et qui font des dons et qui aident ce type d'association. Dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, il y a des riverains qui se sont mobilisés et qui ont fondé une association qui s'appelle Osmos 62 pour venir en aide aux personnes qui sont des naufragés le matin. Donc, vous avez plusieurs riverains qui se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qui est-ce qui paye l'essence? Qui prépare les sandwichs? Demain, on se prépare. À 5h du matin, on se lève et puis on longe le littoral pour voir s'il y a des personnes qui sont trempées et à qui on pourrait venir en aide. Donc, ce sont des personnes qui, pareil, n'étaient pas du tout touchées par le sujet et du jour au lendemain, on vu des gens déambuler dans les rues du Nord-Pas-de-Calais avec des gilets de sauvetage. Ils ont vu une maman porter un enfant, des gens trempent et qui se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ce sont des initiatives qui existent encore aujourd'hui et c'est rassurant de voir qu'il y a ce genre d'initiatives qui existent.
Mais vous avez entendu d'autres propos contraires du côté de Calais, des riverains qui n'apprécient pas, parfois qui ont peur des migrants.
Bien sûr, il y a toute forme de propos. Il y a aussi plein de gens qui ont peur parce qu'en fait, ils ont juste la peur de l'inconnu. Ouais. Donc je reçois des messages parfois très drôles sur les réseaux sociaux, des gens qui me disent « je n'ai jamais osé franchir le pas et aller leur parler ». J'ai plutôt peur et je ferme la porte quand je vois passer des gens. Et ils me demandent des conseils, comment je peux faire pour aller leur parler. Donc, je leur dis tout simplement, commencez par sourire, juste leur adresser un sourire. Vous verrez que le sourire sera échangé. Et puis la fois d'après, si vous vous sentez en confiance, vous irez parler, ces gens ne vous feront absolument aucun mal. Les récits d'agression de migrants dans leur Pas-de-Calais, ils sont très rares.
Alors, on finira avec cette information. Depuis des années, des dizaines de personnes et d'associations comme Utopia 56 viennent en aide aux migrants dans la région en distribuant des repas, des vêtements ou en mettant à disposition des espaces pour recharger les portables, par exemple. C'est essentiel pour permettre à ces personnes, parfois très jeunes, de maintenir le contact avec leurs parents à l'étranger. Voilà, ben écoutez, il me reste à vous remercier, Julien Goudichaud. Vous y retournez ou... Voilà, c'est pour vous, c'est fini, ça a été une mission journalistique.
Non, bien sûr, j'y retourne et je ne sais même pas pourquoi. Des fois, j'y retourne juste pour voir, pour dresser l'état de la situation et je me promène et voilà.
Merci, au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le drame des migrants, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Adèle Caglard.